Octave Uzanne, La fin des livres. Dans une réunion, l'auteur sollicitait de donner son avis sur ce qu'il adviendra des lettres, des littérateurs et des livres d'ici quelques 100 ans, c'est-à-dire aujourd'hui, improvise la petite conférence que voici. Ce que je pense de la destinée des livres, mes chers amis, la question est intéressante et me passionne d'autant plus que je ne m'étais jamais posé jusqu'à cette heure précise de notre réunion. Si par livre vous entendez parler de nos innombrables cahiers de papier imprimés, ployés, cousus, brochés sous une couverture annonçant le titre de l'ouvrage, je vous avouerai franchement que je ne crois point et que les progrès de l'électricité et de la mécanique moderne m'interdisent de croire que l'invention de Gutenberg puisse ne pas tomber plus ou moins prochainement en désuétude comme interprète de nos productions intellectuelles. L'imprimerie que Rivarol appelait si judicieusement « l'artillerie de la pensée » et dont Luther disait qu'elle est le dernier et le suprême don par lequel Dieu avance les choses de l'Évangile, l'imprimerie qui a changé le sort de l'Europe et qui surtout depuis 2 siècles gouverne l'opinion par le livre, la brochure et le journal, l'imprimerie qui a daté de 1436 régna si despotiquement sur nos esprits, me semble menacée de mort, à mon avis, par les divers enregistreurs du son qui ont été récemment découverts et qui, peu à peu, vont largement se perfectionner. Malgré les progrès énormes apportés successivement dans la science des presses, en dépit des machines à composer, faciles à conduire et qui fournissent des caractères neufs, fraîchement moulés dans des matrices mobiles, il me paraît que l'art, où excellèrent successivement Fuster, Schoeffer, Estienne et Vascozan, Haldemanus et Nicolas Janson, a atteint son apogée de perfection, et que nos petits-neveux ne confieront plus leurs ouvrages à ce procédé assez vieillot, et en réalité facile à remplacer par la phonographie encore à ses débuts. Ce fut un tollé d'interruptions et d'interpellations parmi mes amis et auditeurs, des « oh » étonnés, des « ah » ironiques, des « hé hé » remplis de doutes, et se croisant de furieuses dénégations. « Mais c'est impossible, qu'entendez-vous par là ?» J'eus quelque peine à reprendre la parole pour m'expliquer plus à loisir. Laissez-moi vous dire, très impétueux auditeur, que les idées que je vais vous exposer sont d'autant moins affirmatives qu'elles ne sont aucunement mûries par la réflexion et que je vous les sers telles qu'elles m'arrivent, avec une apparence de paradoxe. Mais il n'y a guère que les paradoxes qui contiennent des vérités et les plus folles prophéties des philosophes du XVIIIe siècle sont aujourd'hui déjà en partie réalisées. Je me base sur cette constatation indéniable que l'homme de loisir repousse chaque jour davantage la fatigue et qu'il recherche avidement ce qu'il appelle le confortable, c'est-à-dire toutes les occasions de ménager autant que possible la dépense et le jeu de ses organes. Vous admettrez bien avec moi que la lecture, telle que nous la pratiquons aujourd'hui, amène vivement une grande lassitude, car non seulement elle exige de notre cerveau une attention soutenue qui consomme une forte partie de nos phosphates cérébraux, mais encore elle ploie notre corps en diverses attitudes lassantes. Elle nous force, si nous lisons un de nos grands journaux, format du Times, à déployer une certaine habileté dans l'art de retourner et de plier les feuilles. Elle surmène nos muscles tenseurs, si nous tenons le papier largement ouvert. Enfin, si c'est au livre que nous nous adressons, la nécessité de couper les feuilles, de les chasser tour à tour l'un sur l'autre, produit par menueurs successifs un énervement très troublant à la longue. Or, l'art de se pénétrer de l'esprit, de la gaieté et des idées d'autrui demanderait plus de passivité. C'est ainsi que dans la conversation, notre cerveau conserve plus d'élasticité, plus de netteté de perception, plus de béatitude et de repos que dans la lecture, car les paroles qui nous sont transmises par le tube auditif nous donnent une vibrance spéciale des cellules qui, par un effet constaté par tous les physiologistes actuels et passés, excite nos propres pensées. Je crois donc au succès de tout ce qui flattera et entretiendra la paresse et l'égoïsme de l'homme. L'ascenseur a tué les ascensions dans les maisons. Le phonographe détruira probablement l'imprimerie. Nos yeux sont faits pour voir et refléter les beautés de la nature, et non pas pour s'user à la lecture des textes. Il y a trop longtemps qu'on en abuse, et il n'est pas besoin d'être un savant ophtalmologiste pour connaître la série des maladies qui accablent notre vision et nous astreignent à emprunter les artifices de la science optique. Nos oreilles, au contraire, sont moins souvent mises à contribution. Elles s'ouvrent à tous les bruits de la vie, mais nos tympans demeurent moins irrités. Nous ne donnons pas une excessive hospitalité dans ces golfes ouverts sur les sphères de notre intelligence, et il me plaît d'imaginer qu'on découvrira bientôt la nécessité de décharger nos yeux pour charger davantage nos oreilles. Ce sera une équitable compensation apportée dans notre économie physique générale. Très bien, soulignaient mes camarades attentifs. Mais la mise en pratique, cher ami, nous vous attendons là. Comment supposez-vous qu'on puisse arriver à construire des phonographes à la fois assez portatifs, légers et résistants, pour enregistrer sans se détraquer de longs romans qui actuellement contiennent 400-500 pages? Et sur quel cylindre de cire durcie clicherez-vous les articles et nouvelles du journalisme? Enfin, à l'aide de quelle pile actionnerez-vous les moteurs électriques de ces futurs phonographes? Tout cela est à expliquer et ne nous paraît pas d'une réalisation aisée. Tout cela, cependant, se fera, repris-je. Il y aura des cylindres inscripteurs légers comme des porte-plumes en celluloïde qui contiendront 500 et 600 mots et qui fonctionneront sur des axes très ténus qui tiendront dans la poche. Toutes les vibrations de la voix y seront reproduites. On obtiendra la perfection des appareils comme on obtient la précision des montres les plus petites et les plus bijoux. Quant à l'électricité, on la trouvera souvent sur l'individu même, et chacun actionnera avec facilité, par son propre courant fluidique, ingénieusement capté et canalisé, les appareils de poche, de tour de cou, de bandoulière, qui tiendront dans un simple tube, semblable à un étui de lorgnette. Pour le livre, ou disons mieux, car alors les livres auront vécu, pour le novel ou storyographe, l'auteur deviendra son propre éditeur afin d'éviter les imitations et contrefaçons. Il devra préalablement se rendre au Patent Office pour y déposer sa voix et en signer les notes basses et hautes, en donnant des contre-auditions nécessaires pour assurer les doubles de sa consignation. Et aussitôt cette mise en règle avec la loi, l'auteur parlera son œuvre et clichera sur des rouleaux enregistreurs et mettra en vente lui-même ses cylindres patentés qui seront livrés sous enveloppe à la consommation des auditeurs. On ne nommera plus en ce temps assez proche les hommes de lettres des écrivains, mais plutôt des narrateurs. Le goût du style et des phrases pompeusement parées se perdra peu à peu, mais l'art de la diction prendra des proportions invraisemblables. Il y aura des narrateurs très recherchés pour l'adresse, la sympathie communicative, la chaleur vibrante, la parfaite correction, la ponctuation de leur voix. Les dames ne diront plus, parlant d'un auteur à succès, « Oh, j'aime tant sa façon d'écrire !» Elles soupireront toutes frémissantes, « Oh, ce diseur a une voix qui pénètre, qui charme, qui émeut. Ses notes graves sont adorables, ses cris d'amour déchirants. Il vous laisse toutes briser d'émotion après l'audition de son œuvre. C'est un ravisseur d'oreilles incomparable. » L'ami James Whitmore m'interrompit. « Et les bibliothèques, qu'offrez-vous, mon cher ami, des livres ?» Les bibliothèques deviendront des phonographothèques ou bien des clichéothèques. Elles contiendront sur les étages de petits casiers successifs les cylindres bien étiquetés des œuvres des génies de l'humanité. Les éditions recherchées seront celles qui auront été autophonographiées par des artistes en vogue. On se disputera, par exemple, Molière de Coquelin, le Shakespeare d'Irving, le Dante de Salvini, le Dumas-fils d'Éléonore Duse, le Hugo de Sarah Bernhardt, le Balzac de Mounet-Sully, tandis que Goethe, Milton, Byron, Dickens, Emerson, Tennyson, Musset et autres ont été vibrés sur cylindre par des 10 heures de voix. Les bibliophiles, devenus les phonographophiles, s'entoureront encore d'œuvres rares. Ils donneront, comme auparavant, leurs cylindres à relier en des étuis de maroquins ornés de dorures fines et d'attributs symboliques. Les titres se liront sur la circonférence de la boîte, et les pièces les plus rares contiendront des cylindres ayant enregistré à un seul exemplaire la voix d'un maître du théâtre, de la poésie ou de la musique, ou donnant des variantes imprévues et inédites d'une œuvre célèbre. Les narrateurs auteurs gays diront le comique de la vie courante, s'appliquant à rendre les bruits qui accompagnent et ironisent parfois, ainsi qu'en une orchestration de la nature, les échanges de conversations banales, les sursauts joyeux des foules assemblées, les dialectes étrangers. Les évocations de Marseillais ou d'Auvergnat amuseront les Français, comme le jargon des Irlandais ou des Westermen excitera le rire des Américains de l'Est. Les auteurs, privés du sentiment des harmonies de la voix et des flexions nécessaires à une belle diction, emprunteront le secours de gagistes, acteurs ou chanteurs, pour emmagasiner leur œuvre sur les complaisants cylindres. Nous avons aujourd'hui nos secrétaires et nos copistes, il y aura alors des phonistes et des clamistes, interprétant les phrases qui leur seront dictées par les créateurs de littérature. Les auditeurs ne regretteront plus le temps où on les nommait lecteurs. La vue reposée, leur visage rafraîchi, leur nonchalance heureuse indiqueront tous les bienfaits d'une vie contemplative. Étendus sur des sofas ou bercés sur des rocking chairs, ils jouiront, silencieux, des merveilleuses aventures dont des tubes flexibles apporteront le récit dans leurs oreilles, dilatées par la curiosité. Soit à la maison, soit à la promenade, en parcourant pédestrement les sites les plus remarquables et pittoresques, les heureux auditeurs éprouveront le plaisir ineffable de concilier l'hygiène et l'instruction, d'exercer en même temps leurs muscles et de nourrir leur intelligence, car il se fabriquera des phono-opéras graves de poche, utile pendant l'excursion dans les montagnes des Alpes ou à travers les canyons du Colorado. « Votre rêve est très aristocratique, » insinua l'humanitaire Julius Pollock. « L'avenir sera sans aucun doute plus démocratique. J'aimerais, je vous l'avoue, avoir le peuple plus favorisé. »« Et il le sera, mon doux poète, » repris-je allègrement, en continuant à développer ma vision future. « Rien ne manquera au peuple sur ce point. » Il pourra se griser de littérature comme d'eau claire, à bon compte, car il aura ses distributeurs littéraires des rues, comme il a ses fontaines. À tous les carrefours des villes, des petits édifices s'élèveront autour desquels pendront, à l'usage des passants studieux, des tuyaux d'audition correspondant à des œuvres faciles à mettre en action par la seule pression sur un bouton indicateur. D'autre part, des sortes d'automatic libraries, mus par le déclenchement opéré par le poids d'un penny jeté dans une ouverture, donneront pour cette faible somme les œuvres de Dickens, de Dumas père ou de Longfellow contenues sur de longs rouleaux faits pour être actionnés à domicile. Je vais même au-delà. L'auteur qui voudra exploiter personnellement ses œuvres à la façon des trouvères du Moyen-Âge et qui se plaira à les colporter de maison en maison pourra en tirer un bénéfice modéré et toutefois rémunérateur, en donnant en location à tous les habitants d'un même immeuble une infinité de tuyaux qui partiront de son magasin d'audition, sorte d'orgue porté en sautoir, pour parvenir par les fenêtres ouvertes aux oreilles des locataires désireux un instant de distraire leurs loisirs ou d'égayer leur solitude. Moyennant 4 ou 5 cents par heure, les petites bourses, avouez-le, ne seront pas ruinées, et l'auteur vagabond encaissera des droits relativement importants par la multiplicité des auditions fournies à chaque maison d'un même quartier. Est-ce tout ? Non, pas encore. Le phonographisme futur s'offrira à nos petits-fils dans toutes les circonstances de la vie. Chaque table de restaurant sera munie de son répertoire d'œuvres phonographiées. De même, les voitures publiques, les salles d'attente, les cabinets des steamers, les halls et les chambres d'hôtel posséderont des phonographothèques à l'usage des passagers. Les chemins de fer remplaceront les parloirs cars par des sortes de pullman circulating libraries qui feront oublier aux voyageurs les distances parcourues, tout en laissant à leur regard la possibilité d'admirer les paysages des pays traversés. Je ne saurais entrer dans les détails techniques sur le fonctionnement de ces nouveaux interprètes de la pensée humaine, sur ces multiplicateurs de la parole, mais soyez sûrs que le livre sera abandonné par tous les habitants du globe et que l'imprimerie cessera absolument d'avoir cours, en dehors des services qu'elle pourra rendre encore au commerce et aux relations privées, et qui sait si la machine à écrire, alors très développée, ne suffira pas à tous les besoins. Et le journal quotidien, me direz-vous, la presse si considérable en Angleterre et en Amérique, qu'en ferez-vous ? En ayez crainte, elle suivra la voie générale, car la curiosité du public ira toujours grandissant, et on ne se contentera pas bientôt plus des interviews imprimées rapportées plus ou moins exactement. On voudra entendre l'interviewé, ouïr le discours de l'orateur à la mode, connaître la chansonnette actuelle, apprécier la voix des divas qui ont débuté la veille, etc. Qui dira mieux tout cela que le futur grand journal phonographique ? Ce seront les voix du monde entier qui se trouveront centralisées dans les rouleaux de celluloïde que la Poste apportera chaque matin aux auditeurs abonnés. Les valets de chambre et les chambrières auront l'habitude de les disposer dans leur axe sur les deux paliers de la machine motrice, et ils apporteront des nouvelles au maître ou à la maîtresse à l'heure du réveil. Télégrammes de l'étranger, cours de la bourse, articles fantaisistes, revues de la veille, on pourra tout entendre en rêvant encore sur la tiédeur de son oreiller. Le journalisme sera naturellement transformé. Les hautes situations seront réservées aux jeunes hommes solides, à la voix forte, chaudement timbrée, dont l'art de dire sera plutôt dans la prononciation que dans la recherche des mots ou la forme des phrases. Le mandarinisme littéraire disparaîtra. Les lettrés n'occuperont plus qu'un petit nombre infime d'auditeurs, mais le point important sera d'être vite renseigné en quelques mots, sans commentaire. Il y aura dans tous les offices de journaux des halls énormes, des smoking halls, où les rédacteurs enregistreront à haute voix les nouvelles reçues, les dépêches arrivées téléphoniquement, se trouveront immédiatement inscrites par un ingénieux appareil établi dans le récepteur de l'acoustique. Les cylindres obtenus seront clichés à grand nombre et mis à la poste en petite boîte avant 3 heures du matin, à moins que, par suite d'une entente avec la compagnie des téléphones, l'audition du journal ne puisse être portée à domicile par les fils particuliers des abonnés, ainsi que cela se pratique déjà pour les théâtrophones. William Blackbross, l'aimable critique et esthète qui jusque-là avait bien voulu prêter attention à mon fantaisiste bavardage sans m'interrompre, jugea le moment opportun de m'interroger. « Permettez-moi de vous demander, dit-il, comment vous remplacerez l'illustration des livres ? L'homme, qui est un éternel grand enfant, réclamera toujours des images et aimera avoir la représentation des choses qu'il imagine ou qu'on lui raconte. Oh, votre objection, repris-je, ne me démonte pas. L'illustration sera abondante et réaliste. Elle pourra satisfaire les plus exigeants. Vous ignorez peut-être la grande découverte de demain, celle qui bientôt vous stupéfiera. Je veux parler du kinétographe de Thomas Edison, dont j'ai pu voir les premiers essais à Orange Park dans une récente visite faite au grand électricien près de New Jersey. Le kinétographe enregistrera le mouvement de l'homme et le reproduira exactement comme le phonographe enregistre et reproduit sa voix. D'ici 5 ou 6 ans, vous apprécierez cette merveille basée sur la composition des gestes par la photographie instantanée. Le kinétographe sera donc l'illustrateur de la vie quotidienne. Non seulement nous le verrons fonctionner dans sa boîte, mais par un système de glace et de réflecteurs, toutes les figures actives qu'il représentera en photochromo pourront être projetées dans nos demeures sur de grands tableaux blancs. Les scènes des ouvrages fictifs et des romans d'aventure seront mimées par des figurants bien costumés et aussitôt reproduites. Nous aurons également, comme complément au journal phonographique, les illustrations de chaque jour, des tranches de vie active, comme nous disons aujourd'hui, fraîchement découpées dans l'actualité. On verra les pièces nouvelles, le théâtre, les acteurs aussi facilement qu'on les entend déjà chez soi. On aura le portrait, et mieux encore, la physionomie mourante des hommes célèbres, des criminels, des jolies femmes. Ce ne sera pas de l'art, il est vrai, mais au moins ce sera la vie elle-même, naturelle, sans maquillage, nette, précise, et le plus souvent même cruelle. Je vous répète, mes amis, que je ne conçois ici que d'incertaines possibilités. Qui peut se vanter, en effet, parmi les plus subtils d'entre nous, de prophétiser avec sagesse. Les écrivains de ce temps, disait déjà notre cher Balzac, sont les manœuvres d'un avenir caché par un rideau de plomb. Si Voltaire et Rousseau revoyaient la France actuelle, ils ne soupçonneraient guère les 12 années qui furent de 1789 à 1800 les langes de Napoléon. Il est donc évident, dis-je en terminant ce trop vague aperçu de la vie intellectuelle de demain, qu'il y aurait dans le résultat de ma fantaisie des côtés sombres encore imprévus. De même que les oculistes se sont multipliés depuis l'invention du journalisme, de même avec la phonographie à venir, les médecins autistes foisonneront. On trouvera moyen de noter toutes les sensibilités de l'oreille et de découvrir plus de noms de maladies auriculaires qui n'en existeraient réellement. Mais aucun progrès ne s'est jamais accompli sans déplacer quelques-uns de nos mots. La médecine n'avance guère. Elle spécule sur des modes et des idées nouvelles qu'elle condamne lorsque des générations en sont mortes dans l'amour du changement. En tout cas, pour revenir dans les limites mêmes de notre sujet, je crois que si les livres ont leur destinée, cette destinée, plus que jamais, est à la veille de s'accomplir. Le livre imprimé va disparaître. Ne sentez-vous pas que déjà ces excès le condamnent ? Après nous, la fin des livres. Cette boutade faite pour amuser notre souper eut quelques succès parmi mes indulgents auditeurs. Les plus sceptiques pensaient qu'il pouvait bien y avoir quelque vérité dans cette prédiction instantanée, et John Poole obtint un hurrah de gaieté et d'approbation lorsqu'il s'écria, au moment de nous séparer, « Il faut que les livres disparaissent ou qu'ils nous engloutissent. J'ai calculé qu'il paraît dans le monde entier 80 à 100 000 ouvrages par an, qui tirés à 1 000 en moyenne font plus de 100 millions d'exemplaires, dont la plupart ne contiennent que les plus grandes extravagances et les plus folles chimères, et ne propage que préjugés et erreurs. Par notre état social, nous sommes obligés d'entendre tous les jours bien des sottises, un peu plus, un peu moins. Ce sera pas dans la suite un bien gros excédent de souffrance. Mais quel bonheur de n'avoir plus à en lire et de pouvoir enfin fermer ses yeux sur le néant des imprimés. Jamais l'Hamlet de notre grand Will n'aura mieux dit « Words, words, words !» Des mots qui passent et qu'on ne lira plus.